France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau débat. Et aujourd'hui, on se pose sur une réforme qui fâche, celle de l'audiovisuel public. Faut-il créer une BBC à la française? Une gouvernance commune qui regrouperait l'INA, Radio France et France Télévisions sous une seule et même holding. Cette idée, imaginée par Nicolas Sarkozy, revient en force, portée par Rachida Dati. Et pour la faire adopter au Sénat, car les débats s'enlisaient, la ministre de la Culture a décidé de recourir à l'article 44.3, le petit frère du 49.3, fait rarissime dans la Chambre haute. La réforme arrivera donc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale dès l'automne 2025. Une holding, alors, pourquoi faire? Des économies? Un mastodonte médiatique plus puissant? Les défenseurs pensent la réforme primordiale pour faire face à la concurrence des géants du numérique, accélérer les synergies à une époque où les fake news prolifèrent et où les jeunes désertent les médias traditionnels. Les syndicats, eux, crient à la fusion déguisée, aux suppressions d'emplois et à l'uniformisation de l'information. Quand d'autres s'inquiètent d'un retour de l'ORTF, mais en pire, une mise sous tutelle de l'audiovisuel public. Alors, faut-il modifier un modèle considéré comme beaucoup, comme efficace, au risque de remettre en cause sa stabilité et ses succès? Est-ce une modernisation nécessaire ou un coup de force politique? Révolution ou destruction? On en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et on voit bien, chers auditeurs, que ce débat sur l'avenir de l'audiovisuel public vous intéresse, car vous êtes très nombreux à vous en emparer au 01 45 24 7000 sur le WhatsApp de France Inter. Sois-y que témoigne. Pas touche à ma radio, nous avons de la chance en France d'avoir un service public de qualité pluriel et indépendant, et c'est précieux. Laurent aussi a son idée. Faut arrêter avec la conspiration de l'ORTF 2.0, le service public est irréformable, le modèle de la BBC est très bien. Alors si, comme ces auditeurs, vous voulez réagir sur l'application France Inter, vous nous envoyez des messages et surtout aussi, vous enregistrez votre voix, vous nous envoyez des notes vocales au 01 45 24 7000 et nous, on lance le débat autour de la table avec deux équipes, si je puis dire, ceux qui plaident en faveur de cette holding et ceux qui s'y opposent. Bonjour Laurent Lafont.
Bonjour.
Vous êtes sénateur centriste, auteur de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public et vous soutenez que c'est une réforme nécessaire dans un univers médiatique devenu très concurrentiel. Nathalie Sonnac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Professeure à Assas, spécialiste en économie des médias, ancienne sage du CSA, l'ancêtre de l'ARCOM, autrice de « Du nouveau monde des médias, une urgence démocratique » aux éditions Odile Jacob. Et ça fait partie, pour vous, de cette urgence démocratique de lutter contre les fake news et d'avoir un seul média puissant. À ma gauche, ceux qui s'opposent à ce projet de holding, Benoît Gaspard, bonjour.
Bonjour.
Délégué syndicale Centrale Sud et représentant de l'intersyndicale de Radio France, je précise que à midi aujourd'hui, vous parlez au nom de tous et que bien plus qu'une casse sociale, vous craignez l'affaiblissement d'un système qui, vous nous le direz, marche très bien. Alexis Lévrier, bonjour.
Bonjour.
Historien des médias, maître de conférence à l'Université de Reims, auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse aux éditions Les Petits Matins, et c'est justement ce que vous craignez, c'est-à-dire une tentation jupitérienne de mettre les médias publics, ce contre-pouvoir, sous tutelle. Alors, on se pose d'abord la première question. Faut-il une réforme et une réforme pour faire quoi? Je vous passe la parole, Laurent Lafont, puisque vous êtes l'auteur de cette proposition de loi.
Merci. D'abord, l'idée n'est pas nouvelle, puisque le premier rapport qui a préconisé la holding date de 2015, il y a plus de 10 ans, et depuis, de nombreuses études, rapports se sont succédés pour effectivement aller dans la même direction. Alors, j'ai déposé cette proposition de loi il y a un peu plus de 2 ans. Elle a été votée en première lecture au Sénat en juin 2023. Alors, effectivement, la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-il nécessaire d'organiser un regroupement des acteurs de l'audiovisuel public? Parce que, tout simplement, il y a eu des révolutions technologiques puissantes qui ont, je pense bien sûr à l'apparition du numérique aujourd'hui, mais aussi à celle qui se dessine fortement, l'intelligence artificielle. Et ces évolutions technologiques, elles ont eu un impact majeur sur la relation aux médias, sur la façon dont on accède aux médias, puisque il y a quelques années, en fait, les voies d'accès étaient très limitées. C'était par la voie, ce qu'on appelle linéaire. On allumait sa télévision et puis sur les chaînes de la TNT, on voyait France Télévisions, ou on allumait son poste de radio et on accédait à France Inter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié, les modes d'accès, puisque avec le numérique, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, il y a aujourd'hui d'autres portes d'accès et on voit qu'il y a un transfert des auditeurs qui quittent, heureusement pas totalement, pas définitivement, mais qui quittent progressivement, d'année en année, les médias traditionnels pour se porter vers ces nouveaux médias, ces nouveaux modes de consommation que sont le numérique et les plateformes. Et donc, face à ça, il faut s'adapter, y compris pour l'audiovisuel public.
Je vais passer la parole à Nathalie Sonnac qui défend, elle aussi, cette réforme. Justement, dites-nous pourquoi. Pour que la parole soit plus puissante, c'est ça ce que j'ai compris ?
Je pense que ce qu'il faut prendre en considération, alors même si effectivement ça date depuis 2015, mais depuis 2015, le paysage a déjà fortement évolué. On est dans un système aujourd'hui où l'on s'informe majoritairement sur les réseaux sociaux, où les 18-25 ans consomment, 23% des 18-25 ans dans le monde s'informent sur TikTok. C'est un premier phénomène. Il y a un deuxième élément qui me semble important, c'est le climat de défiance dans lequel nous sommes. On parle de poste de vérité, on parle de désinformation. Donc ce dont on a besoin, et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention et non pas manichéen, c'est la raison pour laquelle je pense qu'au contraire, il faut regrouper, avoir un audiovisuel public extrêmement fort aujourd'hui, parce que comme une sentinelle, en fait, comme une voix, et l'information doit être aujourd'hui garantie, la qualité de la production de l'information doit être garantie dans un univers, et ça c'est un troisième élément, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter évidemment, c'est la concentration de ce secteur. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est les rapprochements qu'il peut y avoir, je pense à TF1 qui se rapproche avec Netflix, on a également l'AFP qui vient de signer avec Mistral, on a également Le Monde qui vient de signer avec OpenAI. Le monde a totalement changé déjà depuis 2015 et cet effet d'industrialisation du secteur, de laisser la main à des opérateurs qui sont des opérateurs majoritairement américains ou chinois, il nous faut en fait, pour ma part, un audiovisuel public qui soit rassemblé, unis, mais pour mieux produire de l'information.
Un mastodonte finalement public pour espérer rivaliser avec les géants du numérique. Alexis Lévrier, vous l'attendez pas de cette manière ?
Non, bien sûr que non. Il y a tellement d'urgence dans les médias aujourd'hui. Les états généraux de l'information l'ont bien montré. Hein. C'était la seule promesse d'Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat. Ils ont eu lieu. Ça a été un lieu de réflexion. Moi, j'étais assez déçu par le rapport final, mais dans les groupes de travail, il y a eu beaucoup de pistes qui ont été émises et qui montrent l'urgence informationnelle. Je partage tout à fait le constat de Nathalie Sonnac hein, sur ce point-là. Donc sur l'éducation aux médias, sur la lutte contre la concentration des médias lorsqu'elle est le fait de gens qui vont avoir un projet idéologique, la défense de l'indépendance des rédactions. En fait, dans ces OGI, on a parlé de tout, sauf de l'audiovisuel public, parce que l'audiovisuel public, il marche très bien, en réalité. Et il a pris ce virage numérique. Aujourd'hui, la moitié des podcasts qui sont téléchargés en France chaque jour viennent de Radio France. La moitié, et je ne parle pas des médias publics, hein, la moitié des médias publics et privés confondus. Donc, ils n'ont pas attendu cette holding Radio France pour prendre le virage numérique. Ce qui les menace aujourd'hui, c'est une série de coupes budgétaires, 60 millions en moins, c'est-à-dire 10% du budget de Radio France en moins lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça produit des effets, par exemple sur les jeunes. Une radio qui va s'éteindre, le MOVE, en raison de ces coupes budgétaires. Parce que Radio France n'a plus les moyens de s'adresser à ce public.
Donc vous y voyez une casse sociale, une fusion déguisée, si je puis dire.
Oui, la fusion, ça sera dans une deuxième étape, parce que je pense que la holding ne fonctionnera pas. On va rajouter un échelon. C'est un peu comme l'intercommunalité avec les communes. Donc on va rajouter la bureaucratie. Et je crois qu'inéluctablement, on ira vers une fusion. Et donc, on en parlera plus tard, mais vers une tutelle du pouvoir politique à l'égard de l'audiovisuel. Ça paraît tellement évident.
Benoît Gaspard, délégué syndical.
Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée qui n'est pas nouvelle pour nous, c'est qu'il y a une transformation des usages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet de loi, depuis... Alors, il existe aussi, cette proposition, depuis qu'elle existe, et effectivement, depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant. On nous met en garde contre un écroulement de nos modèles de l'audiovisuel public parce qu'il ne serait pas assez fort, pas assez puissant. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les arguments, ces arguments-là ne changent pas. Or, on a effectivement fait face à la transformation de ces usages. Aujourd'hui, la radio, elle est écoutée toujours en FM, elle est écoutée en DAB+, et elle produit un grand nombre de déclinaisons de podcasts qui sont écoutés sur le numérique. Et on rencontre des succès auprès des jeunes. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas au moins la prudence de se dire « Attention, on vous avait mis en garde, mais finalement, on voit que vous tenez bon, on voit que vous vous transformez, on voit que vous remportez des succès. On va peut-être finalement ralentir le besoin de réformer parce qu'il n'est peut-être plus prouvé aujourd'hui. »
Mais lorsque vous dites qu'on rencontre des succès, je suis une adepte de l'audiovisuel public et notamment de cette antenne, c'est vrai, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est vrai, mais c'est totalement relatif. Lorsque vous regardez la moyenne d'âge de la télévision en général, et pas uniquement évidemment des chaînes de France Télévisions, c'est 65 ans. Donc cette moyenne d'âge-là, quand vous dites ça rencontre un succès, non, oui. Et
c'est
en même temps,
toutes
non.
Les radios, Nathalie.
Donc,
Toutes les radios voient leur audience.
Complètement. Mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que le point qui me semble très important, c'est justement, et c'est par là que j'ai commencé, c'est cette mutation, cette transformation. Les médias, de façon générale, si je mets même l'audiovisuel public de côté, les médias vont très mal. Aux États-Unis, ce sont 3200 titres de presse quotidienne qui sont morts. Mmh. Aujourd'hui, ce sont des titres, des chaînes de télévision qui sont obligées de se regrouper.
Alors, en quoi cette holding de regrouper Radio France, France Télévisions et l'INA, ça va effectivement rajeunir moyenne d'âge de l'auditeur ou du téléspectateur?
Pardon, je vous en prie.
Non, mais,
La question n'est pas uniquement de rajeunir, parce qu'évidemment, demain matin, ça ne sera pas Netflix. C'est pas ça la question. La question, c'est de s'adresser à tous. Lorsque vous dites que la majorité de votre population a plus de 65 ans, il y a un problème. Donc l'idée, c'est de s'adresser
c'est pas
à tous.
Par les podcasts qui touchent un public beaucoup plus jeune.
Oui, mais
l'écoute se fera de plus en plus par ce biais.
Mais quand on a dit ça, on n'a pas répondu. Moi, la raison pour laquelle je me dis que ça serait important, et c'est pour ça que j'essaye de désolidariser de l'idée politique, parce que lorsqu'on dit que c'est un projet qui a été porté et lancé d'abord par Nicolas Sarkozy et ensuite porté par Rachid Dati, je pense qu'on passe à côté de l'essence même de ce qu'est l'audiovisuel public, c'est-à-dire la nécessité de prendre en considération l'économie de ce secteur. Et l'économie de ce secteur va, de façon générale, c'est-à-dire privée plus public, pardon, extrêmement mal. Oui, demain matin, et demain, voire après-demain...
Et l'audiovisuel public va plutôt bien dans ce domaine, en termes d'audience, de satisfaction, de lien avec le public.
Alors ne parlez pas tous en même temps, Laurent Lafont.
Les chiffres sont assez imparables. Médiamétrie a sorti les chiffres la semaine dernière de l'usage de la radio. 550 000 auditeurs en moins de la radio globale.
Mais globale.
Publique et privée, de la radio traditionnelle. Ces personnes, elles ne sont pas parties n'importe où. Elles sont maintenant sur le numérique, elles sont sur les plateformes. Vous avez vu la semaine dernière, la présidente de France Télévisions,
oui, mais ça peut pas se
la présidente de France Télévisions est allée négocier avec Amazon pour que France Télévisions soit distribuée sur la plateforme Amazon. On voit bien qu'aujourd'hui, on est passé d'un mode de régulation traditionnelle tel qu'on connaissait en France avec une autorité indépendante à, si on veut être écouté, si on veut être vu, à une discussion, une négociation avec des acteurs américains qui ne sont pas du tout sur les mêmes logiques que celles que l'on connaît jusqu'à présent.
Je me permets de vous couper avec une question de bonne foi. C'est-à-dire qu'effectivement, France Inter, c'est quand même plus de 7 millions d'auditeurs tous les matins pour la matinale. En tout cas, en quoi est-ce que vous pensez que de regrouper ces trois groupes télévisuels, INA et la radio, ça va permettre plus de visibilité quand on voit qu'effectivement la radio est déjà forte?
Mais c'est l'idée d'avoir un groupe, selon moi, qui a une vision, une politique, un cap. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'entends. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée, pas simplement de se dire, je vais dissocier, il y a la question, évidemment, de l'indépendance sur laquelle j'espère qu'on reviendra, mais c'est l'idée d'avoir un audiovisuel public avec un cap, avec une volonté. Et d'ailleurs, lorsque vous citiez en amont, en liminaire du lancement de cette émission, la BBC, mais il y a la BBC qui, effectivement, a réussi, et dans cette logique d'intégration de la matière informationnelle avec le web, la radio, la télévision, vous avez la BBC ici aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais vous avez la RTBF en Belgique, vous avez la RAI en Italie, vous y avez ILE en Finlande, vous avez la RTB en Espagne. Ce n'est pas un problème franco-français, c'est l'Europe et les grands pays européens.
Ce ne sont pas exactement les mêmes budgets. Effectivement, il y a eu quand même une coupe sociale, Benoît Gaspard, à la BBC, si on prend l'exemple de la BBC.
Oui, mais en même temps, je ne sais plus si on prend un exemple en considérant que la BBC est un bon exemple ou si on prend l'exemple en disant que ce n'est pas un bon exemple.
Alors,
la BBC,
on va laisser la parole à Benoît Gaspard.
Ce qui compte, c'est le budget, Nathalie.
Oui. Évidemment.
Parce qu'en fait, on
considère que... C'est un économiste qui va dire le contraire.
Moi, ce qui m'interroge, c'est regardons les médias qui résistent aujourd'hui dans un contexte très défavorable. Et pourquoi est-ce que c'est ces médias-là qu'on veut réformer comme s'ils ne fonctionnaient pas? Ça, c'est une première interrogation. Et ensuite, oui, attention au budget alloué à l'audiovisuel public. Parce qu'en fait, c'est déjà devenu très compliqué, et je pense que dans chaque entreprise, il y a des difficultés sociales, dans chaque entreprise de l'audiovisuel public, du fait des baisses de dotations budgétaires. Et très clairement, on n'en parle pas beaucoup, mais ces baisses de dotations, elles pourraient s'accélérer. Elles pourraient s'accélérer via la holding, parce qu'à un moment, il n'y aurait plus de regard politique parlementaire sur où vont ces crédits. Une fois que les crédits sont alloués à l'audiovisuel public dans son intégralité, qui en décide de la répartition et avec quelle maîtrise des projets?
On voit bien que le débat va prendre un tour politique. On va se demander si un seul média, un seul mastodonte public, eh bien ça va affaiblir ou renforcer le service public. Est-ce qu'on va perdre en indépendance, en pluralité ou au contraire gagner en puissance et en efficacité? Quel danger y a-t-il à avoir un seul patron? Bref, on en débat. On débat de cette réforme qui peut-être prendra un tour politique juste après You Got Me Feeling de Parcells. You got me feeling like I'm uninvited. You got me feeling like I'm just outside. You got me feeling like I won't even like it. You got me feeling. You got me feeling like I'm Midi 23 sur France Inter et on débat de votre radio, chers auditeurs, et vous pouvez participer à ce débat. Quel avenir pour l'audiovisuel public? Faut-il réunir France Télévisions, Radio France, l'INA sous une même et seule holding pour être puissance face aux géants numériques ou au contraire garder l'indépendance et la pluralité de chacune de ces identités? On en débat avec le syndicaliste Benoît Gaspard, l'historien des médias Alexis Lévrier, le sénateur Laurent Lafon et l'ancienne sage du CSA, Nathalie Sonnac. Et on se posait la question de savoir si c'était une réforme politique, juste avant Parcells de You Got Me Feeling. Je vous pose la question, Alexis Lévrier, pour vous, est-ce qu'il faut regarder une holding purement économique, objective, ou est-ce que vous y voyez tout de suite une réforme politique ?
C'est évidemment une réforme politique, alors c'est pas un mot sale, hein. Ça peut être pour des objectifs nobles une réforme politique, mais qui d'emblée a d'ailleurs suscité l'opposition de tous les ministres de la Culture qui ont été auditionnés lors de la commission d'enquête sur le contrôle des fréquences de la TNT. Jacques Toubon, Renaud Denieux de Vabre, Fleur Pellerin, Roselyne Bachelot, Rima Abdulmalak.
Si vous comptez comme ça.
Mais cinq ministres de la Culture, dont quatre sont de la droite.
En tout cas, il y a débat, elle est contestée cette mesure. Alexis Lévrier, finissez.
Contre, en estimant qu'il y avait, comme on le disait tout à l'heure, bien plus d'urgence que cela et que rien ne le justifiait. Le problème, c'est qu'on est obligé de l'intégrer dans un premier temps dans ce qu'est la présidence jupitérienne d'Emmanuel Macron, qui, dès décembre 2017, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu très longtemps, a parlé de honte pour nos concitoyens. Il s'en est pris au programme, il s'en est pris au contenu, il s'en est pris aux dirigeants, il s'en est pris aux journalistes. Il s'est attaqué plus tard à l'investigation et à l'émission complément d'enquête. Et puis, il y a eu ces coupes budgétaires. Donc, il est dans cette tradition des présidents depuis De Gaulle qui estiment que soit l'audiovisuel public est au service du pouvoir, ce que disait De Gaulle, la presse est contre moi, la télévision est à moi. Je crois que c'est la conception macroniste. Et c'est ajouté à cela, et ça a changé depuis 2023.
On est en 2025, parce qu'il y a eu... quoi.
Justement,
le
monde est bien plus dangereux que celui de Gaulle. Et effectivement, là où je rejoins ce que tu dis, c'est que c'est ajouté à cela une autre menace, qui est celle représentée par Rachida Dati. Le 18 juin dernier, dans cet aveu, ce qu'elle a fait là, on n'en a aucun exemple dans l'histoire de l'ORTF. Il n'est jamais arrivé.
Alors, c'est un échange avec le journaliste.
C'est pas un échange,
Patrick
ce sont
Cohen.
Des menaces, ce sont des attaques, c'est une agression, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de la télévision française.
Est-ce que c'est un rapport avec la holding ?
C'est pour ça que les exemples historiques sont limités, là, et c'est l'histoire des médias qui le dit, parce que la vraie comparaison est géographique. Ce que fait Rachida Dati, et tous les médias du monde entier l'ont dit, enfin en tout cas la presse anglo-saxonne, la presse allemande, on dit c'est Trump. Trump arrive en France. Ils l'ont tous dit. Menacer un journaliste en direct à la télévision, on ne l'avait jamais vu, même Perfit n'aurait jamais vu. La proposition de loi est revenue au Sénat, les sénateurs LR ne s'en sont pas cachés. Max Brisson a dit très clairement, et je vous invite à vérifier les enregistrements, l'audiovisuel public doit cesser d'être un contre-pouvoir. Donc, estimez qu'à partir de là, ce n'est pas une réforme politique, c'est que vous n'avez
Monsieur
rien compris.
Lévrier, on a compris votre point de vue. La réponse à Laurent Lafon, s'il vous plaît.
Écoutez, j'entends des discours face à moi très politiques. Il s'avère que celui qui a déposé ce texte de loi, qui l'a écrit et qui le défend, c'est moi. Vous citez des noms de personnes qui n'ont pas toujours soutenu la réforme, et en particulier le président de la République, qui, vous l'avez rappelé à travers au moins deux de ses ministres, n'a pas soutenu la réforme. Donc, et prenez un peu de recul par rapport aux faits, aux choses. Sur cette question de l'indépendance des médias, il faut partir d'un constat de départ, sinon nos auditeurs ne vont rien comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, les médias de l'audiovisuel public sont indépendants, oui ou non ? Est-ce que, quand vous faites une émission sur France Inter, vous avez des consignes éditoriales venant de la présidence de France, de Radio France, qui émanerait du ministère de la Culture et de la Communication. Aujourd'hui, c'est non.
Bon, je vous le confirme.
Et vous me le confirmez, et je vous remercie que vous le confirmiez, parce que c'est un élément de crédibilité de France Inter. Qu'est-ce qui ferait que demain, la holding aurait une relation différente?
Alors, parce qu'il y a un seul dirigeant.
Mais actuellement, il n'y a qu'un seul dirigeant à Radio France.
Qu'est-ce
que c'est Radio France ? C'est une chaîne détenue 100% par l'État, financée par de la ressource publique quasiment exclusivement, et dont la présidente est désignée par l'ARCOM. France Média sera exactement la même chose.
Benoît Gaspard, syndicaliste. Pourquoi est-ce que ça vous inquiète, un patron ?
Ce qui nous inquiète, c'est la concentration de la prise de décision. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a des pressions politiques sur l'audiovisuel public, mais néanmoins, ça arrive qu'il y ait des remarques quand même. Ça arrive qu'il y ait des politiques qui se sentent bousculées et il peut y avoir quand même des retours vers la présidence de France Télévisions, la présidence de Radio France, pour dire « Attention, vous franchissez les lignes ».
Mais de la même façon
qu'un... Je ne sais pas si on appelle ça de la pression ou pas de la pression, mais néanmoins, il y a toujours quand même un regard politique qui dit « Tiens, c'est quand même l'audiovisuel public, je m'autorise à dire est-ce qu'ils sont ou pas allés trop loin sur un point ». Maintenant, mettez cette possibilité-là avec un seul interlocuteur. En fait, vous passez un seul coup de fil, et là, vous dites, eh ben, j'arrose la radio publique et la télé publique, et je fais passer un message en disant, attention, sur tel dossier d'actualité, ne franchissez pas certaines lignes. Aujourd'hui, on a quand même deux médias indépendants, et à l'intérieur de ces médias, des rédactions qui, elles-mêmes, font un travail formidable, que ce soit à la télé ou à la radio, et chacune avec des regards spécifiques. N'abîmons pas ça. Je rappelle que dans le projet, dans le rapport de Laurence Bloch, ne faisons pas comme si ce rapport n'existait pas. Il y a un moment, la création d'une filiale de l'information avec un directeur de l'information unique pour tout l'audiovisuel public. Pardon, si ce n'est pas une concentration risquée des prises de décision, nous, ça nous inquiète énormément au niveau de l'intersyndicale de l'audiovisuel public, très clairement.
Alors, Nathalie Sanac. Beaucoup de choses ont été dites, d'une part, moi également aussi. Donc, voyez-vous, je suis inquiète pour ce même point, et donc être extrêmement vigilante sur ce point-là, comme être extrêmement vigilante et garantir la pérennisation d'un budget. Je reviens sur les propos d'Alexis Lévry. Alexis, on ne peut pas laisser dire ça. Enfin, en tout cas, moi, tu ne peux pas me mettre dans un camp ou dans un autre.
Je n'ai pas dit du tout que toi, c'était ton intention, Nathalie. Je ne me permettrai pas.
Mais intellectuellement, est-ce qu'on peut élever le débat? C'est-à-dire, en fait, justement, élever et ne pas faire de la popole et de faire véritablement...
Non, mais ce n'est pas de la popole, ce qui s'est passé le 18 juin.
J'ai entendu, mais pour moi, ce qui s'est passé est dramatique, mais ça n'a rien à voir avec un projet de holding, parce qu'il est défendu par la ministre, j'entends. Je comprends qu'on puisse faire ce raccourci, mais mon propos ici n'est pas
elle
là.
Elle
incarne rien du tout.
Alors, on ne va pas tous parler en même temps, parce que là, ça va vraiment être cacophonique.
Si je puis juste terminer ma phrase, il s'avère que même la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui est quand même reconduite par l'ARCOM depuis la troisième fois, a dégainé immédiatement en disant qu'elle protégeait et elle défendait l'indépendance du journalisme. Arrêtons, on n'est pas dans un pays de dictature.
Et on y va. On peut y aller.
Alors, pour moi, on ne peut pas y aller avec ça. Maintenant, est-ce que l'on pourrait parler d'un projet qui intéresse 15 000 salariés? Aujourd'hui, les gens...
Ils sont vent debout contre cette réforme.
Les 15 000 salariés, ne sont pas tous vent debout. Est-ce que c'est possible d'avoir une discussion de fond?
Ben c'est ce qu'on a.
Non, c'est pas ce que l'on a, parce que tu me ramènes à des propos qui sont des propos... Laisse les propos de représentants syndicaux qu'on a ici.
C'est quand même totalement
absurde. Alors, est-ce qu'on peut parler du fond?
Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. On va donner la parole aux auditeurs aussi qui nous écoutent et qui écoutent votre débat. Luc nous dit, je ne comprends pas très bien. Si on continue à avoir des programmes... On laisse la parole aux auditeurs aussi qui nous écoutent. Luc dit, je ne comprends pas très bien si on continue à avoir des programmes de qualité et complètement indépendants, sans qu'il y ait de suppression massive d'emplois. Où est le problème? Il vous pose la question, Laurent Lafon, c'est l'auditeur qui vous écoute depuis le début.
On n'a pas parlé d'une chose jusqu'à présent, c'est le fait que de travailler ensemble entre France Télévisions et Radio France, mais aussi l'INA, c'est quelque chose qui est voulu par les directions depuis plusieurs années, puisqu'il y a des coopérations qui sont mises en œuvre, notamment sur le plan local, à travers ICI, mais aussi sur le plan de la formation à travers France TV, la chaîne Info. Et ce qu'on constate, moi j'étais très demandeur de ces coopérations, et ce qu'on constate avec un peu de recul maintenant, c'est que ces coopérations ne fonctionnent pas suffisamment parce qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de ces projets, que les arbitrages ne sont pas rendus, que les moyens ne sont pas mis en œuvre par les différentes entités. Et c'est ça qu'on essaye de travailler pour justement s'améliorer sur le plan de l'information en continu, sur le plan de la couverture local.
Alors, c'est tout à fait la question qu'on va poser dans un instant à Pierre Mouchel, secrétaire général du CNRTCGT, délégué général central de France Télévisions, qui va nous dire si ces partenariats fonctionnent entre la radio publique et la télévision publique. On va aborder aussi d'autres projets, celui de la concentration des médias. Par exemple, Brigitte, auditrice au 01 45 24 7000, nous dit, pour moi, il y a un vrai danger à concentrer l'audiovisuel public en cas de prise de pouvoir d'un parti hégémonique. Question dont on va parler autour de la table, juste après Camille Yembe avec Coup de Soleil.
Quelques coups de soleil sur mes pommettes en été. Je veux vivre ce c'est tout chaud, c'est saccadé. J'ai dans le cœur une sirène. Je peux plus rien te cacher cette fois. Quelques trous dans ma veste. J'ai les chaussures abîmées. T'as tout vu, t'es resté quand même. Je veux vivre cette scène mille fois. Ouais, stop, je te mets dans mon portable. Les photos, les lettres, le mauvais tout, tout est dans le tiroir. L'hiver s'installe dans tout l'appart, sur nos visages. Parce que nous deux, ça se sépare, j'aimerais qu'on l'attrape. Quelques coups de soleil. De soleil. Quelques coups de soleil. Il faut de soleil. Rien dans les poches, rien dans la tête, on s'est connu aussitôt. Une heure du matin, dans la caisse, on s'est mélangé la peau. J'aurais voulu que ton soleil. T'es qu'on veut que l'on vive la tête.
Le débat de midi. Paola Buérari sur France Inter.
Enfin, la fin du disque, parce qu'on a envie de continuer à débattre autour de cette table. C'est animé, la conversation continue. Il est midi 35 si vous nous rejoignez sur France Inter. Et on débat de l'avenir de la radio publique, chers auditeurs. Et ça semble vous intéresser. Vous êtes nombreux à nous écrire, comme Philippe qui dit « Attention, ne pas envisager un regroupement de l'audiovisuel public alors que la réduction des dépenses de l'État est inéluctable. Ça me paraît suicidaire. Est-ce que ça va faire des économies, justement, de regrouper France Télévisions, Radio France et l'INA en une seule et même holding? Est-ce que ça va rendre le service public plus puissant ou au contraire, est-ce que ça va l'affaiblir, voire même peut-être le mettre sous tutelle de l'Élysée? C'est l'avis en tout cas d'Alexis Lévrier, assez en colère contre cette réforme, de Benoît Gaspard, délégué syndical, de Laurent Lafon qui porte cette loi, le spécialiste de l'économie, la spécialiste de l'économie des médias, Nathalie Sonnac. Vous avez été donc très nombreux à réagir. Je vous rappelle le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Et avant de prolonger cette discussion, on va prendre au téléphone Pierre Mouchel de France Télévisions, secrétaire général de la CGT. Alors, Laurent Lafon, vous posez la question et il disait, juste avant le disque, il disait que ça ne marchait pas très bien, les partenariats entre France Télévisions et Radio France, et que cette holding pourrait permettre plus de synergie. Vous êtes d'accord ?
Ah non, je suis pas du tout d'accord, puisque en fait ces partenariats, ils existent depuis très longtemps. On faisait beaucoup par le passé de captations de concerts sur les festivals. Simplement, ces captations, elles sont en très forte baisse parce que tout simplement, on n'a plus les moyens de les mener. Ça veut dire des moyens techniques, c'est des coûts aussi en termes de droits, et le service public n'a plus les moyens. Mais pour revenir sur les matinales, les matinales donc maintenant communes, qui sont diffusées sur France 3, moi j'estime que c'est une mauvaise idée du Sénat. C'est de la radio filmée, c'est niveau zéro de la télévision, sauf que ça a un coût énorme, à la fois technique et en termes de masse salariale, pour des audiences faibles et une perte de diversité des contenus.
Diversité, ça c'est intéressant parce que ça revient souvent dans le débat public, l'idée d'avoir des médias indépendants, pluriels. Est-ce que ça vous parle? C'est une crainte que vous avez avec cette future holding, d'une hégémonie, si je puis dire?
Effectivement, la perte de diversité, pour nous, c'est une des craintes principales. On reproche au service public d'être éclaté, mais cette organisation actuelle, elle permet toute cette diversité, que ce soit dans les deux points de vue dans la formation ou dans la diversité des contenus, de création, de magazines, etc. Mais si je peux reboucler sur le modèle, enfin le slogan de Madame Dati d'une BBC à la française, je dirais moi why not, c'est-à-dire avec le système qui garantit son indépendance, avec le budget qui va avec et avec la visibilité budgétaire sur 10 ans. Et c'est absolument pas dans la proposition de loi. La BBC, c'est 7 milliards de budget, et d'ailleurs seulement 4,5 milliards de financement public, parce que la BBC, elle a la capacité aussi de disposer de ressources propres par l'exploitation des droits, des programmes qu'elle exporte dans le monde entier.
Pierre Mouchel,
public ne peut pas faire ça.
Restez avec nous, on passe la parole tout de suite à Laurent Lafon, qui il vous posait une question. Pourquoi effectivement c'est pas dans cette proposition de loi ?
D'abord, c'est pas un texte budgétaire. La question budgétaire, elle est réglée en loi de finances chaque année. Et je précise que c'est pas la holding qui crée le contexte budgétaire. Le contexte budgétaire, il existait avant même cette proposition de loi. Il existera après. La holding ne modifie en rien le contexte budgétaire, la difficulté d'avoir de la ressource publique aujourd'hui. Au contraire, elle essaye d'apporter des réponses en favorisant les synergies et en essayant d'être plus efficace, notamment sur une dimension qui va mobiliser beaucoup de financement dans les mois à venir, qui est celle de l'innovation technologique. Elle en mobilise déjà, mais elle en mobilisera encore plus. Sur le plan de la diversité, moi, je partage les préoccupations de Monsieur Mouchel. Je crois que tous autour de la table, nous les partageons, mais je voudrais juste vous inviter à lire ce texte avec attention et écouter aussi le Conseil d'État qui a été saisi sur ce texte et qui dit clairement que les prérogatives éditoriales des différentes entités, Radio France, France Télévisions et à travers elles leurs différentes chaînes, les prérogatives éditoriales ne sont pas impactées puisque France Média n'a pas de prérogatives éditoriales.
Et pourtant, il y a cette idée qui émerge chez les auditeurs de France Inter d'un agenda caché. Par exemple, Eric nous dit « Je suis un fidèle auditeur de France Inter, je m'interroge sur les véritables motivations de cette réforme, je me demande si paradoxalement, ce n'est pas le succès de Radio France qui motive cette réforme, comme si le succès de l'intelligence et de ses émissions dérangeait. » Et Marie nous dit « Je suis opposée au projet de Rachida Dati qui me paraît extrêmement dangereux compte tenu de son comportement, mais aussi des risques d'arriver au pouvoir de partis capables de remettre en cause la liberté d'expression. » 2027, c'est demain, si je puis dire. Est-ce que ça vous inquiète, Alexis Lavérier, qu'il y a un changement de pouvoir qui fait que un dirigeant unique pourrait être au service de l'Élysée ?
Bien sûr, ces auditeurs ont tout à fait raison. Et encore une fois, je ne veux pas remettre en question votre sincérité, Monsieur Lafon, ni celle de Nathalie Sonnac, bien évidemment. Je pense que vous avez vraiment eu en tête de faire une réforme opérationnelle, d'efficacité. On a des débats vifs, mais il ne faut pas enlever cette base-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça s'intègre dans une progression de fragilisation financière. Et la vraie catastrophe, ça a été la fin de la redevance. Provisoirement, on a trouvé la solution de la TVA, mais il n'y a aucun lien entre la TVA et l'audiovisuel public. Donc, tôt ou tard, il faudra se ressaisir de cette question-là. Et les pays où l'audiovisuel public est fort, ce sont les pays où il y a un lien direct entre les citoyens et l'audiovisuel qui passe par un impôt spécifique dédié. Donc, malheureusement, ça s'intègre dans ce processus-là. Et cette holding, elle produit déjà des effets. Et tout ce qui précède, dont je parle, la fragilisation financière, la fin de la redevance, et ce qui se cache derrière... Peut-être pas de manière explicite de la part d'Emmanuel Macron. Ça a été assez chaotique. Il y a eu une ministre, Imma Abdul-Malak, qui a plutôt défendu l'audiovisuel public avant Rachida Dati. Donc c'est assez confus, finalement, le macronisme. Mais il y a déjà des effets sur France Inter. Vous savez, quand Vincent Bolloré reprend un média, il se débarrasse d'abord de l'humour et de l'investigation. L'humour, en tout cas une grande partie de l'humour, a disparu sur France Inter au cours des dernières années. Toute la bande de Charline Vanhoenacker a été démantelée progressivement.
Alors, Charline Vanhoenacker est quand même tous les jours à l'antenne à 9h45 à un carrefour.
Son émission a disparu.
D'audience et bistroscopie et là chaque semaine. Donc son émission n'a pas disparu.
L'humour politique,
certaines personnes sont parties d'elles-mêmes, certaines humoristes sont parties d'elles-mêmes, mais en tout cas, bistroscopie, c'est chaque semaine et Charlie Vanhoenacker à 9h45.
Je pense que vos auditeurs sauront exactement de quoi je parle.
À la rentrée,
il se passe la même chose pour l'investigation, avec Secret d'info qui passe d'un format hebdomadaire à un format mensuel. L'investigation, c'est la forme chimiquement pure du journalisme. Quand il n'y en a plus dans un média, alors on est dans une dérive absolument insupportable d'un point de vue démocratique.
On peut se demander aussi si, par exemple, pour Secret d'info, il ne faut pas un mois pour sortir une grande enquête d'investigation. Je laisse la parole à Nathalie Sonnac parce que ça arrive néanmoins.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et une fois encore, je crois qu'ils sont mélangés, malheureusement. Lorsqu'on parle de mesures anti-concentration, de système de concentration, il est clair que le dispositif actuel de mesures anti-concentration ne marche pas. Il ne fonctionne pas. C'est un dispositif qui est totalement désuet. Il faut le désolidariser de la création de cette holding, dans la mesure où ça fait 20 ans qu'il ne fonctionne pas. Il est inscrit dans la loi de 1986, et il s'avère qu'il ne marche pas. Donc même pour des médias dits traditionnels, il ne prend pas en compte les usages, pour le dire de façon claire, il ne prend pas en compte les usages linéaires, il ne prend pas en compte, par exemple, les propriétaires de magazines de news comme Le Point ou l'Obs. Donc ça veut dire qu'il est désuet. Donc ce dispositif de ramener à la concentration, ça ne va pas sur ce point-là. L'autre point qui me semble très important et sur lequel moi je suis extrêmement vigilante, c'est le budget de l'audiovisuel. Je suis archi pour l'indépendance de l'audiovisuel public, pour la pérennisation de son budget, pour une hausse de ce budget. Le troisième élément, c'est pour un fléchage de ce budget. Si c'est pour aller dans des frais de structure, comme il peut y avoir 300 personnes à la DRH, ça présente peu d'intérêt, parce que c'est ce qui est aujourd'hui. Parlons de ce qui est pour de vrai, pour l'économie. En revanche, le système de projet... Moi, j'étais effectivement au CSA lorsque France TV Info est sortie de terre. C'est parce qu'ils sont sortis de terre par la volonté unanime de Delphine Ernotte, de Mathieu Gallet à l'époque, qui était président de Radio France, et en même temps de Marie-Christine Saragosse. C'est bien ensemble. Donc pour moi, il y a trois projets centraux, essentiels, à mener toutes les équipes du service public ensemble. C'est d'une part l'information, donc journaliste, ce serait plutôt à multiplier par deux dans mon esprit qu'à diviser par deux. Ensuite, c'est évidemment la recherche et la formation des équipes, notamment en matière de numérique. Et troisième élément qui me semble essentiel, c'est l'éducation aux médias et à l'information.
Benoît
c'est
Gaspard, en un mot, est-ce que ces paroles vous rassurent
Quoi déjà, donc on y arrive à des collaborations intelligentes entre les entreprises de l'audiovisuel public. Et moi, je n'entends pas dans ce débat d'arguments qui viendraient nous dire voilà ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui voilà ce qu'on arrivera à faire demain.
Parce que ici,
donc,
a mis 10 ans
à
sortir
les craintes
terre,
des salariés qui sont unanimement opposés à ce projet de loi.
Non, je ne crois pas du tout.
Alors, nous espérons en tout cas que les auditeurs ont pu se faire un avis. J'invite à lire vos livres si vous voulez aller plus loin. Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, ça c'est aux éditions Petit Matin, signé Alexis Lavrier, Nathalie Sonnac, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique. Évidemment, votre proposition de loi, Laurent Lafont, à retrouver, j'imagine, sur le site du Sénat. Et Benoît Gaspard, rendez-vous effectivement à l'intersyndicale de Radio France. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé. Chers auditeurs, merci à mon équipe qui a si bien préparé l'émission. Et tout de suite, eh bien, c'est le jeu des 1 000 euros.